Les matins d'été, Astrid de Vilaine.
Hier, mardi 15 juillet dans l'après-midi, François Bayrou a présenté ses très attendues orientations budgétaires pour 2026. L'objectif, réaliser 43,8 milliards d'euros d'économies pour sortir de ce que le Premier ministre appelle le piège mortel de la dette. Pour se faire une année blanche, le gel des dépenses de l'État ou encore la suppression de 2 jours fériés. Que retenir de ces annonces et quelles en sont les conséquences sur l'économie et nos vies? On en parle avec 2 invités ce matin. Bonjour Clara Léonard.
Bonjour, je vous remercie pour cette invitation.
Et merci à vous d'être là ce matin. Vous êtes directrice générale de l'Institut Avant-Garde, docteur en économie. Et juste en face de vous, en studio, Mathieu Plane. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous êtes économiste et directeur adjoint à l'OFCE, enseignant à Sciences Po et à la Sorbonne. Alors, on s'attendait à 40 milliards d'euros d'annonces pour boucler le budget 2026, qui était déjà considérable. Et puis finalement, François Bayrou annonce 43,8 milliards d'euros d'économies. Pourquoi ?
Alors, Oui. En fait, les 40, on est passé de 40 à, on va dire, pratiquement 44, de façon assez rapide et de façon assez simple. En réalité, c'est parce que le président de la République a annoncé entre-temps une augmentation significative du budget de la défense, hein, de 3,5 milliards supplémentaires, qu'il va falloir compenser si on veut tenir les objectifs budgétaires. Et donc les 40 se sont transformés quelque part en 44 milliards pour cette raison-là, ce qui va rendre effectivement l'ajustement budgétaire, ou en tout cas les économies à trouver, encore plus, j'allais dire, plus ambitieuses ou en tout cas plus délicates.
Clara Léonard ?
Alors, si on revient sur ces 40 milliards, il faut déjà préciser que c'était une manière originale de présenter les efforts à effectuer, parce qu'en fait, d'habitude, traditionnellement, on compare le déficit à viser au déficit de l'année précédente. Là, en fait, les 40 milliards, c'est l'écart entre le déficit visé, donc 4,6%, et ce qu'on appelle le tendanciel, c'est-à-dire le déficit prévisible en prolongeant les tendances actuelles. Donc, si on avait choisi une présentation traditionnelle, ce serait un ajustement autour de 25 milliards. C'est un choix qui est moins transparent que les mesures traditionnelles, mais qui est très politique parce qu'il permet d'afficher un montant très important. Et ça va de pair avec une rhétorique qui a été très marquée pendant le discours d'hier. On parle de danger mortel de la dette, d'Himalaya devant nous, etc. Donc c'est pour ça qu'on a ce chiffre qui est mis en avant.
Vous partagez, Mathieu Plane, c'est vrai qu'on entend de plus en plus cette critique du fait qu'en fait c'est comme un fétiche politique, un objet politique monté, mais pas forcément une réalité ensuite d'un point de vue des finances publiques.
Alors, on ne peut pas dire non plus que les finances publiques soient en bonne situation. Hein. C'est-à-dire qu'après, tendance à effectivement aggraver peut-être la situation. On a vite eu une comparaison avec la Grèce en disant attention, la menace c'est effectivement la falaise, le cas grec, avec derrière l'idée qu'on perdait le contrôle de notre souveraineté financière, hein, et qu'on ne pourrait plus se refinancer derrière, hein, c'est tout ça. Et donc on voit le cas grec est quand même un peu dans toutes les mémoires, comme c'est assez récent. Mais c'est vrai qu'on en est quand même assez loin d'un point de vue structurel. Mais il faut dire que la situation budgétaire est quand même un peu délicate en France, hein, parce qu'on est avec un déficit qui est proche de 6% du PIB, on est quand même très éloigné de la moyenne de la zone euro, c'est un peu inédit parce qu'on est quand même les plus mauvais élèves. Et surtout, on fait face à une crise budgétaire, mais qui est plutôt française et pas européenne, hein, ce qui n'était pas le cas d'il y a la décennie 2010. Et deuxièmement, elle est quand même couplée à une crise politique. Et à mon avis, c'est ça qui est très embêtant, c'est que vous avez un budget qui est annoncé, on dit 43,8 milliards, mais à la fin, on ne sait pas du tout ce qui va rester de ce budget. Et donc, effectivement, c'est quoi la sortie de tout ça ? Donc, c'est quoi le redressement des comptes publics et la stratégie qu'on va avoir jusqu'à 2029 ? Parce que, finalement, François Bayrou nous présente un budget, un programme jusqu'à 2029. Or, on sait que, potentiellement, ce budget peut être censuré dans 2 mois. Donc, c'est là, en fait, l'inquiétude, c'est de dire, effectivement, cette crise budgétaire est couplée à une crise politique, et donc, on ne voit pas tellement la sortie de tout ça.
Allez-y, Clara Léonard.
Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Je trouve que la comparaison avec la Grèce est un peu excessive. Si on pense à la Grèce, on pense tout de suite à la crise de la dette grecque. Et à l'époque, on avait quand même des taux d'intérêt qui étaient à plus de 30%. Voilà, là, aujourd'hui, la France, à 10 ans, qui est le taux de référence, se finance à 3,4%. C'est moins que le Royaume-Uni, par exemple, qui est à 4,6%. Donc, il y a certes des efforts à faire, mais vraiment sur le long terme, dans la durée, avec des économies qui sont difficiles à faire étant donné la situation politique, mais on n'est pas du tout au bord de la faillite. Voilà,
On va l'écouter, si vous le voulez bien, ouais. Cet extrait de François Bayrou dans son discours hier avenue de Ségur, une antenne de Matignon. Et comme ça, vous nous direz pourquoi, selon vous, il dramatise ou pas.
Et je pense qu'il ne faut jamais oublier l'histoire de la Grèce ou l'exemple de la Grèce. Le Premier ministre d'alors s'appelait Alexis Tsipras. Il était à la tête d'une coalition qui s'appelait Syriza, de gauche et d'extrême gauche. Et pour éviter cet obstacle, il a convoqué un référendum du peuple grec pour que son pays dise non et que, officiellement, son pays derrière lui refuse les conditions de redressement qui lui étaient faites par l'Union européenne et le FMI. Ce référendum pour dire non, Alexis Tsipras l'a gagné très largement le dimanche. Et le jeudi, 4 jours après, il a été obligé de signer tout ce qu'on lui demandait, tout ce qu'il avait juré de ne jamais accepter. Et le peuple grec, l'État grec, ont dû consentir des sacrifices immenses. Ils ont dû baisser de 30% les retraites et de 15% le salaire des fonctionnaires. Et c'est exactement ce que nous ne voulons pas.
François Bayrou, hier, dans son discours intitulé « Le moment de vérité ». Alors, si j'ai bien compris, Clara Léonard et Mathieu Plane, vous êtes d'accord pour dire qu'il ne faut pas être trop alarmiste, qu'on n'en est pas là, c'est-à-dire en 2008-2010, quand le FMI débarquait à Athènes?
Non, j'ai dit heureusement qu'on n'en est pas là, mais vraiment heureusement. D'ailleurs, j'allais dire le juge de paix, si on peut penser là que c'est les marchés, les taux d'intérêt n'ont pas bougé du tout. Hein. On a, depuis la dissolution, ce qu'on appelle une prime de risque un peu plus élevée, qui a un an, mais pour le moment, il n'y a pas du tout de dérive. Et heureusement, parce que la situation économique française, elle n'est pas radicalement différente aujourd'hui d'il y a un an. La question, une fois de plus, c'est la trajectoire qu'on peut avoir sur les prochaines années. Et j'allais dire, ce qui inquiète ou qui ouvre des incertitudes fortes, c'est aussi la crise politique et la possibilité de redresser effectivement ces comptes publics de façon équilibrée. Si jamais on était la Grèce, on ne pourrait pas écarter des hausses de fiscalité, par exemple. Je veux dire, aujourd'hui, on a un plan d'ajustement budgétaire qui porte à 85% sur la dépense publique. Il faudrait, à ce moment-là, actionner très fortement le levier fiscal. Donc, on n'est pas à la Grèce, qui est un risque. Il ne faut pas l'écarter, ça, c'est sûr. Que, potentiellement, on puisse payer un peu plus cher notre dette, on ne peut pas l'écarter. Mais j'allais dire, heureusement, on n'est pas à la Grèce. Et ce plan ne ressemble pas du tout à un plan d'une économie qui serait équivalente à la Grèce.
Clara Léonard.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. La Grèce, c'était des déficits vraiment beaucoup plus importants. Il y avait aussi des problèmes de chiffres, etc. Il y a une autre métaphore qui a été utilisée au début du discours que je voudrais évoquer. Monsieur Bayrou a comparé la dette publique avec la dette d'un ménage. Et ça, c'est une erreur en économie parce qu'en fait, ce sont des dettes qui ne sont pas du tout de même nature. La grande différence entre un ménage et l'État, c'est que l'État a pris à une durée de vie infinie. Donc son objectif n'est pas tant de rembourser toute sa dette que de la rouler, c'est-à-dire se refinancer à des taux d'intérêt qui restent raisonnables pour ne pas qu'elle explose et qu'elle fasse faillite. Et la dette publique et les dettes souveraines sont des éléments financiers, enfin des produits financiers qui sont essentiels pour le système financier international.
Il a utilisé beaucoup de comparaisons hier, François Bayrou, dans son discours, puisqu'il a aussi comparé la situation française à la situation allemande. Ça, c'est peut-être un peu plus classique, mais il faut quand même bien dire qu'on est le mauvais élève de la zone euro sur le déficit, 5,8% du PIB. Donc, il annonce un plan jusqu'à 2029 pour atteindre 2,8% du déficit et donc respecter la règle européenne de Maastricht. Est-ce que cette trajectoire est crédible ?
Crédible, en tout cas l'annoncer, la crédibilité, voilà, une fois de plus, elle se fera à l'Assemblée. Là, on l'a vu à partir des annonces. Premièrement, ce qui est bien, c'est quand même de dire la réalité, c'est que c'est un plan d'ajustement qui va prendre plusieurs années. Et que pour stabiliser la dette publique en point de PIB, l'effort va devoir se cumuler sur plusieurs années. Mais la crédibilité, on voit qu'elle va être extrêmement difficile à trouver parce que à peine sortie de son discours, la plupart des partis politiques ont mis des lignes rouges très sévères. Et donc, ce plan de 44 milliards ne sera pas du tout ça à la fin. Ou en tout cas, si jamais il est exposé comme ça à l'Assemblée, il sera immédiatement censuré. Donc la question, c'est qu'est-ce qui va rester de tout ça, au fond, et quelle est la stratégie de moyen terme? Moi, je pense que c'est ça qui peut inquiéter un peu les investisseurs ou les marchés, c'est de dire, en fait, c'est quoi la stratégie de moyen terme de la France d'un point de vue économique, budgétaire, des questions sur la transition, de la réindustrialisation, etc. Parce qu'on voit qu'il y a quand même un blocage politique fort. Et, j'allais dire, tous les scénarios, du coup, sont possibles suite à ça.
Alors justement, sans faire de politique fiction, mais c'est vrai que là, le Parlement est fermé, les députés sont en vacances, c'est presque un peu cocasse d'ailleurs, vu les efforts demandés, mais ça c'est une parenthèse. Rassemblement National, la France Insoumise et le Parti Socialiste ont annoncé qu'ils censureraient probablement, même presque certainement, ce budget à l'automne. Que se passerait-il d'un point de vue budgétaire si François Bayrou tombait sur ce budget 2026, comme c'est déjà arrivé à Michel Barnier pour le budget 2025 ?
On rentrerait à nouveau dans le même type de séquence avec potentiellement la nécessité de renommer un premier ministre, un gouvernement, etc. Sachant que il y a toujours cette idée qu'il faut que le budget soit défini avant décembre, sinon on doit avoir recours à des lois spéciales. Donc ça crée beaucoup de chaos.
Mathieu Plane, est-ce qu'il y aurait des conséquences sur les finances du pays d'abord et sur notre taux d'emprunt sur les marchés ? Vous en parliez à l'instant.
Oui, parce que finalement, on a dit comment on voit les marchés, tout ça, etc. Ils réagissent assez peu à ces annonces parce que, bon, d'abord, elles ne sont pas tellement surprenantes en réalité. Hein. On a le cadre un peu attendu, y compris dans les montants et éventuellement dans sa répartition. D'ailleurs, ce n'est pas très détaillé hein, sur les gros montants, on pourra peut-être y revenir.
On va rentrer dans le détail, bien sûr.
La réalité, c'est la question. Le moment de vérité, il n'est pas tout de suite, hein, en fait. Ce n'est pas le 15 juillet. Hein. Le moment de vérité, c'est à l'automne. Et donc, on va voir ce qui va se passer à l'automne. Et donc, je pense que l'idée de mettre, par contre, qui était pas mal de mettre en amont, de présenter le plan budgétaire, c'est de pouvoir laisser un peu de temps à la discussion et de voir sur quoi le gouvernement pourrait revenir, sur quoi il pourrait avoir des nouveaux arbitrages, de façon à éviter la censure et à avoir un budget qui soit, en tout cas, peut-être pas voté, mais non censuré.
Clara et Léonard, un mot, et puis après on va revenir sur les annonces et peut-être préciser ce que c'est que l'année blanche.
Oui, puisqu'on parle des marchés, ce qui est très important pour les marchés, alors bien sûr ce sont les fondamentaux économiques, mais également ce risque politique. Ce qu'on a vu, c'est que le spread, c'est-à-dire l'écart entre le taux allemand et le taux français, s'était écarté depuis la dissolution. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'il y a une hausse importante des taux français. Donc ça, c'est presque plus un risque à très très court terme que la situation budgétaire.
D'ailleurs, souvent on entend dans certaines analyses l'exemple britannique de Liz Truss qui serait tombée en raison du manque de confiance des marchés financiers. Elle est valable selon vous de cette comparaison ?
Oui, avec un cas un peu particulier sur Liz Truss parce qu'elle avait pris des mesures budgétaires qui n'étaient pas du tout adaptées à la situation économique. Là, la question, c'est vrai qu'il faut bien le rappeler, hein, l'économie française est d'une économie qui est beaucoup moins dépendante de l'extérieur que la Grèce, qui a beaucoup d'épargne, qui est centrale en Europe, on sait bien lever l'impôt, on a quand même un niveau de qualification et de productivité important. Donc, on a des fondamentaux qui sont loin d'être ceux de la Grèce, hein, sans être dur avec la Grèce. Mais en tout cas, voilà. Mais la question, au fond, politique est du coup très importante et elle est certainement la crise politique est peut-être supérieure du coup à la crise budgétaire. Si on n'avait pas de crise politique et s'il y avait une majorité à l'Assemblée, même si ce plan nous plaisait pas ou plaît pas aux oppositions, à partir du moment où il y a une majorité, il pourrait passer, quitte à avoir de l'impopularité. Et donc, on sait que ce redressement des comptes publics se ferait dans la douleur, mais il se ferait. Là, aujourd'hui, on ne sait pas du tout quelles pourraient être les possibilités. On dit, effectivement, si c'est censuré, est-ce que derrière, on a un nouveau gouvernement technique ? Sur quel programme ? Est-ce qu'on a une nouvelle dissolution ? S'il y a une dissolution, c'est une majorité. S'il y a une majorité, c'est qui a la majorité et sur quel programme ? Et donc, vous voyez qu'aujourd'hui, on a besoin de visibilité et de réflexion de moyen terme, de stratégie à moyen terme, pour avoir un vrai équilibre sur ce qu'il faudrait faire pour dresser les comptes publics, tout en évitant l'affaissement de la croissance, tout en évitant une remontée du chômage, tout en évitant une augmentation des inégalités, tout en évitant la désindustrialisation, etc. etc. Et aujourd'hui, on n'y voit pas du tout clair pour ces questions et ces raisons politiques.
Clara Léonard.
Pour donner quelques chiffres à partir d'une étude de Cyprien Mathieu et Jonas Kaiser dans notre institut, on veut respecter les règles budgétaires européennes, il faut dégager 150 milliards à horizon 2031, parce que ce sont des règles qui sont très exigeantes, qui demandent notamment d'atteindre un solde primaire d'un peu plus d'un point. Et si en plus, et ça c'est très important, nous on insiste beaucoup sur ce point, on veut financer la transition écologique, parce qu'il y a vraiment des grandes transformations à faire, on atteint là 180-200 milliards. Donc on est vraiment sur une problématique de long terme et pas simplement des petits ajustements comme qui ont été annoncés aujourd'hui.
Vous trouvez que l'année blanche, c'est un petit ajustement ?
Alors, c'est pas un petit ajustement en montant,
mais
je trouve que c'est pas une solution pérenne. Ce qu'il faut chercher, ce sont des solutions structurelles d'assainissement de notre budget avec des vraies mesures, que ce soit des hausses d'impôts ou bien des baisses de dépenses. Mais là, on est vraiment sur du court-termisme.
Mais alors, sur l'année blanche, il y a quand même peut-être pas des hausses d'impôts, mais enfin si, et surtout des nouvelles personnes qui rentrent dans l'impôt. Qu'est-ce que c'est l'année blanche, Mathieu Plane ?
L'année blanche, il y a plusieurs années blanches. Celle qui nous présente, en fait, elle est quand même assez importante, hein, d'un point de vue budgétaire. Il y a le gel des prestations sociales, celles qui sont dites indexées, qui doivent être revalorisées comme l'inflation. Notamment, vous avez les retraites, hein, qui sont un montant important. Mais vous avez aussi tous les minima sociaux, les allocations logement, les allocations familiales. Vous allez voir aussi les allocations chômage. Tout ça représente à peu près 500 milliards, en fait. Et à partir du moment où vous faites une année blanche, vous revalorisez pas ces prestations comme l'inflation. Donc vous faites l'économie de l'inflation d'un point de vue budgétaire. Par contre, pour les personnes qui reçoivent ces prestations, il y a une perte de pouvoir d'achat parce qu'effectivement, leurs prestations ne compensent pas la hausse du coût de la vie. Donc ça, c'est une partie de l'année blanche. Mais ça ferait à peu près 5 milliards d'économies. À ça s'ajoute le fait que vous pouvez faire une année blanche sur la fiscalité et pas revaloriser les seuils et les barèmes de l'impôt sur le revenu notamment. Et donc, ça vient augmenter le poids de l'impôt sur revenu pour les personnes qui le payent. Mais un certain nombre de personnes qui ne le payaient pas vont aussi rentrer dans l'impôt sur le revenu. Alors, nous, on avait fait ce calcul sur la loi spéciale, mais c'était sur 2025. On avait 380 000 ménages qui rentraient dans l'impôt. Là, ça devrait être un peu moins parce qu'on a un peu moins d'inflation. Et puis, dernier point, et donc ça représente un peu plus de 1 milliard. Même le gouvernement parle de 2 milliards si vous avez aussi une année blanche sur les seuils de CSG. Donc, vous avez aussi la question de la CSG. Vous voyez, c'est un peu technique. Mais on aurait 7 milliards sur l'année blanche, purement prestation impôt. Mais en fait, pour moi, l'année blanche, elle va être plutôt autour de 17 milliards. Parce que derrière, le gel des dépenses en valeur de l'État hors défense, en fait, ça revient à une année blanche sur le budget de l'État hors défense. C'est-à-dire que vous gelez le budget en valeur des ministères en dehors de la défense. Et ça fait 10 milliards. Et ça, pour le coup, c'est un montant qui est massif aussi. Mais on n'a pas du tout le détail de comment on atteint. Parce que là, c'est des chiffres. Hein. Vous dites, on gèle l'enveloppe. Mais après, comment on fait pour atteindre ces objectifs-là? Et c'est là, les vraies questions, c'est où est-ce que seront faites les économies dans chacun des ministères?
Alors, en effet, l'année dernière, par exemple, les pensions de retraite ont été revalorisées de 2,2%, puisque c'était le taux de l'inflation. Cette année, en 2025, il semble être plus bas, 1% selon la Cour des comptes. Est-ce qu'il y aura vraiment un impact sur toutes les prestations sociales, les retraites, etc., pour les Françaises et les Français? Est-ce que c'est peut-être ça qui a conduit aussi François Bayrou à prendre cette décision? Clara Léonard?
Alors, la décision sur l'année blanche, on peut se demander sur quelle catégorie ça va peser. Alors, ça va peser sur ceux qui dépendent des revenus indexés. Donc, vous avez les prestations sociales, dont les retraites. L'IR, ce sont les deux premiers déciles qui devraient en pâtir le plus.
Ça, c'est sur l'impôt sur le revenu.
Voilà. Alors, sur l'ensemble, en fait, des mesures de l'année blanche. Voilà. L'année blanche a des effets régressifs, donc une perte de 0,7 à 0,25% du niveau de vie selon l'IPP. Et les premiers déciles perdent le plus car l'effet du gel du barème de l'IR, qui pèse plus sur les riches, n'est pas compensé par les effets très régressifs du gel des prestations sociales. Alors, on est quand même dans un contexte où il y a l'INSEE qui vient de publier des chiffres sur la pauvreté qui étaient effarants, au plus haut depuis 30 ans. Il y a 650 000 personnes qui ont basculé dans la pauvreté en une année. Voilà, on peut un peu se demander c'est vraiment le bon moment pour annoncer ce type de gel.
Oui, Mathieu Plane. Je pense que là-dessus, c'est important, hein, sur cette année blanche. Faut savoir que tout ce qui est prestations sociales qui sont hors retraite, en fait, sont très concentrées sur les bas revenus. En fait, c'est les minima sociaux, c'est les allocations logement, c'est les allocations familiales. Alors, à partir du moment où vous gelez ce type de prestations, effectivement, les effets les plus négatifs, en pourcentage du niveau de vie, c'est sur les plus modestes. Donc, effectivement, quand on voit une année blanche, on pense que c'est assez égalitaire en disant, en fait, on gèle. Mais en fait, c'est assez inégalitaire, même c'est très inégalitaire, parce que c'est les plus modestes et le bas de la classe moyenne qui va être le plus affecté, hein, en réalité, par cette année blanche. Ce qui est d'ailleurs une des critiques fortes de ce budget, c'est qu'en fait, il est inégalitaire. C'est un budget où, effectivement, c'est plutôt les retraités, les modestes, les fonctionnaires qui vont être mis à contribution, et finalement, assez peu, les grosses entreprises ou les très gros patrimoines.
Oui, c'est ça. Vous partagez, Clara Léonard, alors que François Bayrou avait prévenu qu'il voulait que tout le monde contribue.
C'est ça, ça a été présenté comme des grandes mesures transversales. Tout le monde doit faire un effort, mais ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas du tout le cas et que ça pèse essentiellement sur les plus pauvres et pas sur les grandes entreprises et les plus fortunées.
Il y a pourtant cette contribution spéciale pour les hauts revenus, Mathieu Plane, oui. Vous avez plus de détails, vous, peut-être ?
Oui, alors, pour le moment, ça semble être un peu une reconduction de ce qui avait été fait sur la contribution sur les hauts revenus. Hein,
pour de faire l'année dernière.
De l'année dernière, pardon, qui devait être, qui devait être sur une année qui est reconduite pour une deuxième année, qui représenterait à peu près 2 milliards d'euros, de faire en sorte qu'il y a un impôt, un minimum d'impôt sur revenus qui soit payé. Pourquoi ? Parce que les revenus financiers, en fait, sont soumis à ce qu'on appelle la flat tax, le prélèvement forfaitaire unique, et payent assez peu d'impôts sur revenus, et donc ça serait une compensation comme ça. Mais par contre, on n'a pas de taxation spécifique sur les patrimoines ou les hauts patrimoines. Alors même sans rentrer dans la taxe Zucman, par contre, il n'y a pas eu d'effet d'annonce de ce côté-là, et non plus, les entreprises ne sont pas du tout, ou quasiment pas, mis à contribution, notamment les grandes entreprises.
Peut-être un dernier mot, puisqu'il est bientôt 8 heures, sur les retraités. On a vu aussi cette mesure qui est un vieux serpent de mer, c'est-à-dire de supprimer les fameux 10% d'abattement fiscal sur les pensions de retraite, enfin sur le revenu des retraités, pour le remplacer par une forme de prime de 2000 euros à retirer de son impôt sur le revenu. Là, c'est censé valoriser, aider quand même plus les petites retraites que les plus grosses.
Moi, je pense que c'est plutôt une bonne mesure. Hein. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas effectivement une suppression pure et dure hein, de cette niche fiscale pour frais professionnels de 10% pour les retraités, qui représentait quand même 5 milliards. Et du coup, ça redistribue quand même un peu parce que vous faites un forfait à 2000 euros et donc c'est plutôt avantageux pour, on va dire, les retraités du bas de la classe moyenne, voire une partie de la classe moyenne. Et par contre, ça sera plus coûteux. Enfin, en tout cas, les retraités plus aisés vont payer plus. Donc, c'est assez redistributif. Et en même temps, il y a peut-être un petit gain budgétaire.
Merci beaucoup, Mathieu Plane, économiste et directeur adjoint à l'OFCE. Vous restez avec nous, tout comme vous, Clara Léonard, directrice générale de l'Institut Avant-Garde, docteur en économie. On va continuer à décrypter les annonces, puisqu'elles sont très nombreuses, de François Bayrou. France Culture, il est 8h.
7h-9h, les matins d'été, Astrid de Vilaine.
C'est le sujet de sa vie politique, la réduction de la dette publique, thème principal de sa campagne présidentielle en 2007. Alors, près de deux décennies plus tard, quand François Bayrou annonce un plan massif au pays, le Premier ministre ne peut s'empêcher d'y voir un signe du destin. Combien peut rapporter cette année blanche décidée pour reconstruire le budget de l'an dernier sans tenir compte de l'inflation que ses oppositions décrivent déjà pour certaines comme une année noire pour les services publics ou les travailleurs? Nous sommes toujours en présence de nos deux invités. Clara Léonard, merci d'être restée avec nous, directrice générale de l'Institut Avant-Garde, docteur en économie, et Mathieu Plane, économiste et directeur adjoint à l'OFCE, enseignant à Sciences Po et à la Sorbonne. Merci à vous. Alors, on va reprendre la conversation où on l'avait laissée, si vous le voulez bien. Cette année blanche, que certains décrivent comme une année noire, est-ce que vous pouvez nous en expliquer les raisons ? Je cite par exemple Sophie Binet de la CGT qui dit « Je ne veux pas fermer des hôpitaux pour financer des rafales », en référence évidemment aux dépenses sur la défense qui sont augmentées, contrairement aux autres, ou évidemment au Parti Socialiste ou d'autres forces politiques qui... comme le Rassemblement National, et même LR d'ailleurs, qui y voit voilà, une atteinte pour le pouvoir d'achat, par exemple, des retraités. Mathieu Plane ?
Oui, l'année blanche est une des composantes de l'ajustement budgétaire qui a été annoncé. Hein, donc on a à peu près 7 milliards sur le gel des prestations et l'impôt hein, sur le revenu cette année blanche. Et après, il y a tout le gel des ministères, de la dépense en valeur, dont on n'a pas forcément le détail. Mais c'est vrai que si on regarde... dans cet effort qui va être concerné, c'est clairement les ménages les plus modestes. Hein, ça, c'est sûr qu'ils reçoivent des prestations sociales, notamment les retraités qui sont en première ligne. En fait, c'est c'est une des grosses variables d'ajustement quelque part dans ces questions budgétaires. Et puis après, il y a toute la dépense des ministères. Et dedans, il y a effectivement aussi les fonctionnaires. Donc, ils ne seront pas revalorisés. En tout cas, il n'y aura pas de revalorisation générale. Il y en a justement aussi sur l'emploi. Mais même quand on regarde ça, d'ailleurs, c'est un point intéressant. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a à peu près 10 milliards d'économies attendues du côté de l'État et des agences de l'État. Et en fait, même si vous réduisez, et c'est ce que dit François Bayrou, hein, vous ne remplacez pas un fonctionnaire sur trois. Je rappelle, à Sarkozy, c'était 1 sur 2. Là, on est à 1 sur 3. Bah, l'économie attendue, elle est de l'ordre de 400 à 500 millions d'euros, alors qu'on attend 10 milliards. Sur l'État, donc ça veut dire que globalement, il y a un peu plus de 9 milliards qui ne sont pas expliqués. Donc ça veut dire où est-ce que sont faites, en fait, en réalité, les économies budgétaires. Parce qu'une année blanche, en fait, c'est purement technique, hein, on va dire. On ne reconduit pas un certain nombre de dépenses, on les gèle en valeur. Mais par contre, une fois qu'on a dit ça, bah, c'est très général. Mais comment font chaque ministère pour s'organiser sur quel type de dépenses, sachant qu'effectivement sur la masse salariale c'était un peu annoncé. Mais du coup, c'est quoi les autres variables d'ajustement? Est-ce que c'est sur l'investissement? Est-ce que c'est sur des politiques de l'emploi? Est-ce que c'est sur des budgets, par exemple, liés à la transition énergétique? Donc voilà, c'est là où ça va être intéressant, c'est qu'il faut le décliner, ministère par ministère, pour voir un peu ce qu'il y a derrière certaines branches, et qui n'est pas juste un aspect technique. L'aspect technique, c'est juste la non-revalorisation des prestations, mais après, sur la dépense de l'État, il va falloir avoir un peu plus de détails.
3000 postes en moins de fonctionnaires l'an prochain, non-remplacement d'un fonctionnaire sur 3 à partir de 2027. Quelles conséquences ça peut avoir sur nos vies, Clara Léonard?
Alors déjà, je vais revenir un peu en arrière parce qu'il me semble important d'expliquer pourquoi on en est là, pour montrer à quel point cette solution n'est pas forcément très appropriée. Voilà, pourquoi on a eu une hausse de la dette, ça s'explique à moitié par des dépenses en effet de l'État de crise, mais également par une baisse des prélèvements obligatoires depuis 2017. C'est le résultat d'une stratégie qui a échoué, des baisses d'impôts non financées à la fois des ménages et des entreprises, surtout des ménages, avec 2,5 points de baisse de PO depuis 2017. Donc ça, c'est important parce qu'on se centre énormément sur les dépenses de l'État, mais il y a aussi un vrai sujet de baisse d'impôts non financés. Alors, si on regarde ce budget voilà, qui se veut transversal, etc., il y a des vrais choix qui sont faits en réalité. Donc, on a privilégié la défense, mais il y a beaucoup de sacrifices sur des dépenses d'avenir. Dans le PLF 2025, il y avait une baisse de 1 milliard dans la recherche, il y avait la réduction des crédits pour l'écologie, aucune mesure de rattrapage sur l'éducation, alors que depuis 20 ans, la dépense par élève ou étudiant baisse en France, qui accentue le retard de formation. Voilà, donc ça, c'était les orientations 2025. On peut se dire que ça va être les mêmes orientations.
Est-ce qu'il y a, à part la défense dont on a beaucoup parlé, des ministères qui ne seront pas touchés parce qu'ils ont eu des lois de programmation? On peut penser par exemple au régalien, l'intérieur, la justice.
C'est pas évident, je sais pas. Pour le moment, on sait pas. C'est, ouais. C'est là où, pour le moment, on a quand même, sur l'ensemble des annonces, on l'a vu, hein, il y a quand même des. Vous avez 10 milliards sur l'État et les agences à trouver. Vous en avez 5 sur la santé. C'est pas rien, hein, non plus. Et vous avez 5 sur les collectivités locales. Donc vous avez la moitié, en gros, des 40, un peu plus de 40 milliards, qui, pour le coup, sont des annonces un peu générales, qui vont porter sur des économies importantes. Mais on n'a pas du tout le détail, en fait, de comment tout ça va se décliner. Et or, c'est souvent dans le détail que les choses se compliquent.
Hein. Et là où on a encore moins de détails, c'est sur le travail. Hein. Oui. On va écouter François Bayrou, puis on décrypte juste après ces annonces sur cette question.
J'ai la conviction qu'il faut réconcilier notre pays avec le travail, avec l'emploi, avec l'épanouissement au travail. Il est devenu insupportable pour beaucoup d'entre nous, j'en suis sûr, quel que soit le courant de pensée auquel nous appartenons. Il est devenu insupportable de voir toutes les entreprises artisanales, tous les commerces, tous les secteurs industriels se plaindre et parfois mettre la clé sous la porte parce qu'ils ne trouvent plus les salariés jeunes ou motivés dont leurs entreprises ont besoin et dont ils espéraient qu'ils pourraient un jour prendre la succession. Ce blocage-là, ce désenchantement face au travail, c'est un ennemi public et je vous propose que nous le combattions. Il faut travailler plus. Il faut que toute la nation travaille plus pour produire et pour que l'activité du pays dans son ensemble soit plus importante dans l'année et pour que la situation de la France s'améliore. Je propose donc que 2 jours fériés soient supprimés pour tout le pays.
C'est peut-être la mesure effet waouh, pardon pour cette expression, la suppression de 2 jours fériés. On comprend potentiellement peut-être pour mettre ça dans la négociation et n'en supprimer finalement qu'un. Comment avez-vous reçu tous les deux, Mathieu Plane et Clara Léonard, cette annonce et combien cela peut rapporter? Clara Léonard.
Alors, il est important de préciser qu'il ne suffit pas toujours de travailler plus pour produire plus, ce qui est la volonté. Donc, depuis 2004, vous avez la journée de solidarité qui sert à financer le modèle social, mais c'est en réalité un impôt, hein, la contribution de solidarité autonomie.
Est-ce qu'on peut s'arrêter un instant, pardon, oui, sur ce que vous venez de nous dire? Oui. Travailler plus ne permet pas forcément de produire plus. Vous pouvez préciser?
Je vais vous expliquer pourquoi, justement. Donc, en fait, c'est un jour qui est souvent chômé, et donc nous ne travaillons pas beaucoup plus. Par ailleurs, il y a 250 jours ouvrés par an. Chaque jour de travail en plus devrait ajouter 0,4 points de PIB. Mais l'INSEE a montré que l'effet d'un jour ouvré supplémentaire, c'était seulement 0,06 points de PIB. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, c'est que le niveau de production, il est contraint par la demande qui n'augmente pas. Et en plus, le temps de loisir, c'est souvent un temps de consommation. Voilà. Donc, en fait, si vous enlevez du loisir, vous enlevez de la consommation.
Mathieu Plane, on voit que ça peut rapporter parfois la suppression d'un jour férié 2 à 3 milliards d'euros par an.
Oui, alors, c'est bien, hein, Clara Léonard l'a bien rappelé, c'est pas mécanique hein, l'effet sur la production. Effectivement, il faut quand même qu'il y ait une demande en face. Hein. Si on veut augmenter les capacités de production et travailler plus, il faut aussi que, du coup, cette demande suive. Donc ça, c'est effectivement tout sauf mécanique. Après, ce qui peut rapporter, ce qui a rapporté dans la journée de solidarité, c'est que ça a été assorti d'une hausse de cotisation, en réalité, sur les entreprises, sur la masse salariale de 0,3%. Qui rapporte à peu près 3 milliards par an. Et donc, l'idée derrière, c'était de dire on prélève un peu plus sur les entreprises à travers une cotisation sur la masse salariale, mais vous, entreprise, vous pouvez faire travailler vos salariés un jour de plus sans les rémunérer, en fait. Et donc, à la fin, si les salariés travaillent un jour de plus sans être rémunérés, en fait, c'est les salariés qui portent l'effort, et du coup, les entreprises payent la cotisation. Si les entreprises font cadeau de ce jour-là, c'est elles qui payent, pour le coup. Donc, c'est en fait savoir quelle va être la répartition de cet équilibre. Et ce qui est bizarre dans le discours de François Bayrou là-dessus, il y a deux choses. La première, c'est qu'il ne dit pas « travailler plus pour gagner plus ». Donc, est-ce que ces deux jours travaillés en plus donnent lieu à une rémunération supplémentaire ou est-ce que c'est travailler plus pour gagner pareil ? C'est quand même pas la même chose. Et deuxième chose, est-ce que c'est assorti d'une hausse de cotisation pour des questions budgétaires ? Parce que la finalité derrière tout ça, c'est quand même que ça rapporte de l'argent.
Clara Léonard ?
Oui, moi je pense qu'il y a d'autres solutions si on est dans une logique de... Si on veut insister sur le travail, il faut plutôt investir justement dans la politique industrielle verte française pour soutenir des nouveaux secteurs. On va faire face à une réorganisation massive avec une destruction de secteurs bruns et puis la potentielle montée en puissance de secteurs verts. Vous allez avoir beaucoup de gens qui vont perdre leur emploi parce qu'il va y avoir ces secteurs bruns qui vont disparaître et il faut les aider à revenir au travail. Et c'est en nourrissant ce tissu productif-là et en pensant les grandes transformations que là, on va bénéficier du travail.
Et justement, vous l'avez sans doute entendu, François Bayrou, le Premier ministre, a cité, tout en le critiquant, le fameux rapport sénatorial qui chiffre à 211 milliards d'euros par an le montant des aides de l'État aux entreprises. Alors, tout confondu. Mmh. Hein. On aurait peut-être pu imaginer que François Bayrou décide de flécher ces aides en fonction, justement, des entreprises qui aident à la transition énergétique. C'est pas du tout le choix qu'il a fait. Il décide, lui, de proposer une sorte de choc de simplification aux entreprises. Elles vont devoir y réfléchir cet été et envoyer des propositions. Et celles qui auront eu le droit à cette simplification de normes, ou vous allez nous dire ce que François Bayrou a derrière la tête, pourront continuer à conserver ces aides, hein, Mathieu Plane.
Oui, alors, bon, le fléchage, c'est toujours quelque chose d'assez compliqué, mais on va pas rentrer dans ce détail-là. Ce qui est assez surprenant, c'est que, bon, d'ailleurs, c'est aussi un rapport de la Cour des comptes hein, qui montre que, globalement, quand on regarde les exonérations de cotisations sociales, hein, qui sont la grosse mesure fiscale de la politique d'offre depuis un peu plus de 10 ans, sont passées de l'ordre de 20 milliards en 2013-2014, à aujourd'hui, on est à autour de 80 milliards. C'est-à-dire que, du coup, ça a été multiplié par 4, hein, c'est la Cour des comptes. Et donc, effectivement, on a une forme d'inflation assez forte à travers la politique de l'offre qui vise à réduire la fiscalité sur les entreprises pour des gains qui, des fois, sont contestables. En réalité, c'est plutôt ça, parce qu'on voit bien qu'on a quand même, malgré tout, une problématique d'industrialisation. On n'a quand même pas rétabli complètement notre déficit commercial. On a des questions sur les qualités d'emploi qui peuvent être créées, qui sont plutôt des emplois autour du SMIC par ces mécanismes-là. Donc, c'était aussi l'occasion de repenser la politique d'offre, pour moi. Et or, on rentre toujours dans cette mécanique de compétitivité, de politique fiscale, de dire le travail est plus, on supprime des jours fériés, sans réfléchir en fait à l'investissement, l'innovation, la montée en gamme, la réindustrialisation, qui sont des enjeux qui vont bien au-delà. Et donc, on a un programme en fait qui est purement budgétaire et un peu fiscal, et qui oublie de savoir comment on fait mieux contribuer les entreprises au redressement des comptes publics, tout en maintenant l'investissement, tout en améliorant effectivement notre tissu productif. Et ça manque quand même fortement, je trouve.
Clara Léonard, est-ce que ce budget peut avoir finalement un effet récessif, ce qui ne serait pas du tout ce que souhaite François Bayrou à l'entendre ?
Alors oui, tout à fait. C'est vrai que il pourrait y avoir un effet croissance, une croissance qui est déjà vraiment faible. La prévision, c'est 0,7%. Ce que vous montrent des études, notamment une étude du FMI, c'est que la consolidation ne mène pas automatiquement à une baisse de la dette publique. Vous avez de nombreuses expériences de politique d'austérité qui mènent même à une hausse, plus de la moitié en fait, des expériences d'austérité de la dette publique à moyen long terme. Donc voilà, donc c'est pas automatique, hein. On fait un effort et puis on stabilise, voire on baisse la dette.
Est-ce que là on est dans un budget d'austérité ou c'est absolument pas le bon terme ?
Alors, c'est de la sémantique, mais oui. Enfin, je veux dire, qu'on appelle ça de la consolidation budgétaire, de la restriction budgétaire ou d'austérité, on choisit le mot qu'on veut. Hein.
Mais vous, c'en êtes un.
Oui, mais à partir du moment, en fait, l'idée c'est que quand on vous redresse les comptes publics comme ça à marche forcée, vous prélevez sur l'économie. Donc le prélèvement sur l'économie, c'est une forme, c'est de la consolidation. L'austérité, il n'y a pas une définition claire de ce qui est l'austérité. Là, ce qui est quand même par contre évident, c'est que c'est un budget qui est quand même massif, hein, on parle de 43-44 milliards, on n'a pas tout le détail, mais qui porte à 85% sur la dépense publique. Donc, il y a quand même, je veux dire, un des effets qui sont très significatifs du côté de la dépense publique, qui se qualifie, enfin, qu'on pourrait qualifier d'austérité. Alors, après, on joue sur les mots, mais en tout cas, c'est assez clair.
Clara Léonard, vous reprenez l'expression aussi ?
Oui, je reprends l'expression, et c'est un budget qui devrait peser sur la consommation et sur la croissance.
Peut-être encore un mot avec vous, Clara Léonard, sur l'extrait qu'on vient d'entendre de François Bayrou, qui parle d'épanouissement au travail, et c'est vrai que c'est un vrai sujet, pour tout de suite, après, annoncer la fin potentielle de 2 jours fériés. C'est une mesure qui, selon vous, peut être bien perçue dans la population, puisqu'il faut quand même aussi qu'elle y adhère à ce plan, la population française.
Oui, c'est ça. Il faut qu'elle y adhère. De manière générale, il faut que la population adhère à ce budget. C'est intéressant, je reviens sur ce choix qui a été fait sur la défense, parce qu'il y avait une note de l'IPP qui est sortie et qui vous montre que, en fait, si vous voulez que le budget de défense soit pérenne, il faut qu'il soit soutenu par la population.
Et il l'est, et d'ailleurs. Donc, il est soutenu dans les enquêtes d'opinion.
Alors, eux, ce qu'ils montrent aussi, c'est qu'il faut que ça dépend beaucoup du design de ces politiques, et il faut que ça aille de pair avec des politiques de redistribution. Donc je fais un peu un détour vers la défense, mais je veux montrer que la question de l'acceptabilité est vraiment essentielle, et en tout cas sur les jours fériés, je pense qu'on en est loin.
Mathieu Plane, c'est un peu un vieux serpent de mer, ça aussi, qu'on a sorti du tiroir, parce que ça rapporte beaucoup d'argent, potentiellement, même si vous avez mis des nuances tout à l'heure.
Oui, alors voilà, ça peut rapporter, ça dépend comment c'est ficelé, tout ça, on n'a pas encore bien le détail, c'est sûrement aussi une demande plutôt du patronat, hein. J'imagine aussi, effectivement, de supprimer ces 2 jours fériés. C'est vrai que sur l'adhésion des actifs, elle risque de ne pas être très forte, hein. C'est sûr, surtout qu'elle est quand même couplée à la réforme des retraites, qui demande déjà de travailler plus tout au long de la vie. Donc en fait, c'est une mini-réforme des retraites supplémentaire, parce que vous allez travailler 2 jours de plus par an sur toute votre durée de vie active. Donc à la fin, ça vous fait 80, 90 jours de plus. Ça fait presque 3 à 4 mois supplémentaires sur l'ensemble d'une vie active. Et la question, c'est est-ce que ça, c'est valorisé ? Et est-ce que, comment on fait ? Parce qu'on a beaucoup parlé de dire il faut revaloriser le travail.
Oui.
Mais, donc c'est important de dire, si vous revalorisez le travail, alors à ce moment-là, on supprime les jours fériés, mais il faut payer plus aussi. Et là, on n'a pas entendu, vous travaillez plus, mais vous allez gagner plus.
Il n'y a rien dans ce plan, Clara Léonard, sur peut-être ce qui a émergé de la crise des Gilets jaunes, c'est-à-dire faire en sorte que le travail paye plus et qu'on soit heureux d'aller travailler parce qu'on a plus de pouvoir d'achat.
Non, il n'y a rien dans ce plan qui permet de défendre cette idée-là.
Peut-être une dernière chose, Gabriel Zucman, l'économiste qui défend cette taxe qui porte son nom sur les milliardaires, a critiqué ce budget sur les réseaux sociaux. Il dit que ce budget s'attaque à peu près tout le monde, sauf aux milliardaires. Vous partagez rapidement l'un et l'autre,
oui,
Mathieu Plane ?
Oui, c'est un angle mort assez terrible. Je trouve que quand on dit qu'il faut partager l'effort de redressement des comptes publics, il y a quand même un gros sujet sur la taxation des patrons, même si voilà, je ne suis pas forcément favorable à la taxe Zucman. Il y a quand même une histoire de savoir comment on fait mieux contribuer, en tout cas, les milliardaires les plus riches à cet effort de redressement budgétaire.
Clara Léonard, très rapidement.
Oui, c'est ça, parce qu'on avait la contribution différentielle sur les hauts revenus, mais qui rapportait vraiment peu. Le rendement de la taxe Zucman, alors il est débattu, mais entre 15 et 20 milliards, il y a des chiffres qui sortent. Voilà, mais ça dépend de si on prend en compte le patrimoine professionnel. Et donc ça dépendra largement des détails de ce genre de mesures.
Et sans doute aussi des débats au Parlement qui s'annoncent animés à la rentrée. Merci à tous les deux d'être venus ce matin sur France Culture pour nous aider à y voir plus clair dans ce budget 2026. Clara Léonard, directrice générale de l'Institut Avant-Garde, Mathieu Plane, économiste et directeur adjoint à l'OFCE.
Merci.
Copain, aimez-vous le théâtre?
Il y a une grâce, il y a un charme, il y a une espèce de magie.
France Culture.
Enfin, je reparte à midi parce que je joue à Avignon à 5h.
Ah, le théâtre.
Les matins d'été. Astrid de Vilaine.
Et nous prenons tout de suite la direction d'Avignon où nous retrouvons, comme chaque matin, Marie Sorbier. Bonjour Marie.
Bonjour Astrid et bonjour à tous. Pour la première fois, la Comédie Française est présente dans le Festival d'Avignon avec la dernière mise en scène d'Éric Ruff, Le Soulier de Satin, mais aussi dans le off à la Scala avec les Serge Gainsbourg.bar. Voici donc le public et le privé qui se marient dans les remparts pour le seul plaisir des spectateurs.
Elle a eux dans la tui tui oh.
Stéphane Darroquet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ici parce que pour la première fois, la Comédie Française joue à la fois dans le festival, dans la cour d'honneur, et ce sera Le Soulier de Satin, et dans le off avec les Serges que vous avez commis en scène. Est-ce que pour vous, ça veut dire quelque chose, cette dichotomie entre le in et le off?
Non, pas vraiment. En plus, moi, je ne suis pas un grand spécialiste du Festival d'Avignon, parce que j'y viens rarement. Ça fait 15 ans que je ne suis pas venu en tant que festivalier. C'est vrai que de l'extérieur, j'ai pas mal d'amis qui jouent soit dans le in, soit dans le off. Donc, je sais les différences entre le théâtre subventionné et puis le off, c'est tellement pluriel aussi.
On a parfois l'impression que la Comédie Française, elle reste dans ses murs. Vous avez plusieurs lieux à Paris. Mais peut-être que le public sait moins que la Comédie Française est aussi en tournée. Là, vous finissez finalement la tournée des Serges ici à Avignon. Le fait de jouer hors les murs, c'est important pour vous?
Mais souvent, les gens nous disent « vous êtes tout le temps à Paris », alors que chaque année, il y a un ou deux spectacles qui sont en tournée. Mais c'est vrai que les gens ne le savent pas forcément. Et c'est très, très important de pouvoir voir d'autres salles, d'aller à la rencontre du public. Moi, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler du politique dans le théâtre. Et moi, je trouve que le vrai politique dans le théâtre, c'est d'aller à la rencontre des gens qui n'ont pas forcément accès à la culture, d'aller jouer un peu partout, quoi, pour pas se scléroser dans notre capitale.
Et le politique, c'est aussi pour la Comédie Française de proposer un spectacle comme les Serges, c'est-à-dire à partir de Serge Gainsbourg, donc loin du répertoire. Est-ce que pour vous, c'est aussi une sorte de respiration, de changer complètement de thématique par rapport aux pièces plus classiques que vous jouez habituellement?
Ah oui, tout à fait. Depuis le début du mandat d'Éric Ruff, même avant avec Muriel, mais c'est vrai qu'Éric a vraiment ouvert énormément à plein de formes différentes. Et pour nous, c'est très enrichissant parce que ça nous oblige à être encore plus curieux, encore plus mobiles, plus ouverts à plein de choses. Et puis à aller à la rencontre aussi des auteurs et autrices d'aujourd'hui, quoi.
Vous venez d'arriver, alors peut-être que vous n'avez pas suivi ça, mais au tout début du festival, Anne-Thérèse de Kersmaeker a fait un spectacle sur Brel, où nous avons entendu 26 chansons de Jacques Brel. C'était vraiment un hommage pour elle qui dansait dessus. Là, les Serges, c'est un peu différent. Ce ne sont pas que des chansons de Gainsbourg qu'on entend.
Oui, c'est un spectacle un peu hybride. D'ailleurs, souvent, ça déconcerte les gens au tout départ, et puis après, ils se laissent un peu embarquer, parce qu'on a voulu faire une sorte de portrait chinois de Gainsbourg, à travers des bouts d'interview, un texte de Boris Vian, une parole de Jane Birkin, et puis des reprises de Gainsbourg où on essaie aussi de décaler ces reprises, de faire entendre encore plus le texte, d'essayer d'apporter un regard nouveau sur ces textes-là. Ouais.
Alors bon festival, j'espère que vous ferez partie de ceux qui aiment Avignon. Sébastien Poudrou, votre collègue, disait à l'instant que ça se divisait en deux, donc on verra dans quelques jours.
Oui, oui, j'ai hâte. Je vous ferai peut-être un bilan dans 15 jours.
Oui, j'espère. Je vous retrouve. Merci beaucoup.
Merci.
L-A-E-D-O-L-A-T-I-T-I-A.
Françoise Nissen, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la présidente du festival ici à Avignon. On vient d'entendre la Comédie Française qui, cette année, est à la fois dans le in et dans le off. Est-ce que pour vous, c'est une des conséquences du travail que vous menez avec Thiago Rodriguez depuis plusieurs années pour justement abattre ces frontières entre le in et le off?
La conséquence, c'est d'avoir le plaisir de faire du théâtre, de venir à Avignon, de partager avec un public, parce que c'est d'abord un public, hein, le festival. Donc c'est surtout un très très grand bonheur. Et c'est comme ça que ça doit être. Et je trouve ça absolument merveilleux de pouvoir avoir la Comédie Française des deux côtés. Et alors je trouve absolument formidable aussi, c'est la Comédie Française qui, évidemment, à Paris, ne se considère pas comme parisienne, mais comme nationale ou internationale, et donc va à la rencontre des gens dans les territoires. Et ça, c'est une des choses qui me paraissent absolument indispensables.
La Scala a ce fonctionnement particulier, qu'elle bénéficie à la fois de financements privés et publics. Est-ce que ce mélange privé-public, c'est pour vous une des ouvertures pour le monde de la culture aujourd'hui?
Je ne comprends pas que ça ne se fasse pas plus, parce que l'important, c'est de faire exister, et de faire exister ce qui vaut la peine d'exister pour le public, une fois de plus. Quand un théâtre fait pour le public un travail de qualité, peu importe que ce soit une institution privée, une institution publique, ce qui est important, c'est ce qui y est fait et l'accès que ce théâtre donne au public. Merci beaucoup.
Encore une belle réponse. Oui, ça va bien.
L-A-E dans la T-I-T-I-A.
Merci Marie Sorbier qui nous fait vivre le festival d'Avignon chaque matin. On vous retrouve demain.